la renverse, risquer l'envers de soi pour trouver son endroit. J'aime le désordre que tu mets en moi, moi, nous, toi, en être toute retournée, à la renverse de toi, de moi. Ceci est un message codé, déchiffre-moi. J'essaie de ranger, mais il y a toujours du qui désordre, nous, impossible à classer. Tu es entré, ton souffle a tout balayé, mes mots surtout, sont sans dessus dessous. Avec toi, dans tous les sens, exister quelque part, à l'envers de nos vies. Parole de myope, on voit parfois mieux dans l'ombre, quand tout est flou, brouillé, mélangé, inversé. Vous venez d'entendre un texte de Mélanie Leblanc que vous pouvez trouver dans la revue Recours aux poèmes ou sur internet www.recoursauxpoemes.fr. Vous êtes dans l'émission de la langue brune dans le format autour de la poésie. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors Mélanie, aujourd'hui tu vas nous parler de David Dumortier, hein, qui était dans la programmation de Poésie danse la rue. Il a fait une lecture spectacle qui s'appelle Music Hall à la bibliothèque du Châtelet.
Oui, il revient au mois de mars dans la région. Le samedi 14 mars, il jouera ce spectacle pour enfants, donc c'est à partir de 8 ans. C'est un spectacle poétique et qui est charmant même quand on a beaucoup plus de 8 ans. Donc le samedi 14 mars à 10h30, il sera à la médiathèque de Bourrachard et le mercredi 18 mars à 11h à la médiathèque de Saint-Éloi de Fourques, je crois. Et donc en fait, c'est un poète vivant, comme tous les poètes dont il a été question jusqu'à présent depuis septembre. Et un poète vivant qui écrit pour la jeunesse et pour les adultes. Et en fait, je vais vous laisser ces mots le présenter directement, parce qu'il a écrit un livre qui est quand même assez proche d'une autobiographie, qui s'appelle Travesti. Sur la couverture, on voit une carte avec le roi David d'un côté et la dame de cœur Sophia de l'autre. Et voilà, je vais vous lire les premières lignes de ce livre paru aux Dilettantes. J'habite un quartier populaire de Paris, au fond d'une petite rue sombre, l'une des dernières zones de repli pour quelques dealers. Arrivé là, il faut entrer dans l'immeuble par un hall assez large, traverser la cour, puis prendre le bon escalier, suivre un couloir, tourner à droite et c'est à cette porte que des centaines d'hommes sont venus sonner. Je suis écrivain, et je suis une travestie. Je préfère que l'on dise que je suis un poète quand on parle de mes livres. Je n'écris pas de romans parce que je n'aime pas que l'on dilue les sucs de la langue. Mais au-delà de ces classifications littéraires, je crois que je ne romance pas de belles histoires parce que je cherche toujours à être un peu à part. La poésie me plaît par sa marginalité. Je reconnais en elle ma vie par le mépris qu'elle suscite souvent. Et je suis une travestie. C'est-à-dire que je m'habille en femme chez moi pour recevoir des hommes. Et des hommes, j'en ai accueilli des wagons. Avec ces deux activités, j'ai multiplié ma vie par deux. Bien entendu, personne ne choisit un beau matin d'être poète, pas plus que travesti. J'ai donc eu l'occasion de rencontrer David Dumortier, vous allez pouvoir l'écouter. Bonjour David Dumortier.
Bonjour Mélanie.
Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de ce que tu écris. J'ai découvert hier un jeu de cartes que tu as publié aux éditions Motus. Et peux-tu nous parler de ce jeu ?
Ah ben c'est tout simple. Il s'agit d'un jeu de cartes qui prédit l'avenir aux enfants. Et bien entendu, c'est pour rire, hein. Et c'est à travers 38 poèmes, comme ça. Donc on tire une carte et on connaît son avenir. Et ça marche, hein. En fait, c'est pas si faux que ça.
En fait, en découvrant ce jeu hier, j'ai retrouvé quelque chose de commun à tes précédents écrits. Je retrouve une générosité. C'est comme si tu venais réparer des choses chez les gens et que tu leur offrais du beau. Tu leur disais « vous êtes beau ».
Oui, j'ai un peu envie que les cartes soient redistribuées.
Oui.
Hein, et que le sort peut prendre un autre chemin, prendre un virage. C'est pas parce qu'on est né dans une très grande pauvreté qu'on peut pas un jour vivre avec un peu d'aisance, par exemple. C'est pas parce que on n'a pas eu trop d'amour dans son enfance qu'un jour on ne peut pas vivre des moments de tendresse et voilà qui viennent réparer un petit peu le passé. Voilà, donc c'est un peu ça, ces textes. C'est pour donner de l'espoir. C'est pas des textes tristes. Voilà.
Et tu as une attention particulière à la marge, aux gens qui peuvent être en souffrance ou...
Pas forcément en souffrance, mais les marginaux,
oui.
Oui, les marginaux m'ont toujours intéressé. Je pense que c'est dans la marge ou dans la minorité que souvent les choses se passent. L'histoire s'est faite beaucoup par les minorités. Mais je pense qu'il y a au fond de chacun une part de marge, de marginalité. Voyez-vous, c'est cette part-là qui m'intéresse. Ouais.
Et le lien avec la poésie, du coup ?
La poésie, elle a quelque chose de... Dans la littérature, elle est devenue marginale. C'est peut-être pour cela qu'elle me plaît aujourd'hui. Le jour où elle ne sera plus marginale, peut-être qu'elle me plaira moins. Voyez-vous, par exemple, le roman me plaît pas beaucoup. Je trouve que c'est une littérature aliénée, que c'est une littérature d'esclaves, pour des esclaves. Et je préfère la parole libre, la parole du voyou, la parole du poète, qui est une parole qui ne respecte pas toujours les lois de la langue.
Ce que j'en retrouve dans vos mots, c'est à la fois une attention aux mots riches, précieux, rares, et à la fois des mots du quotidien, des mots très populaires.
Ouais.
Et j'aime beaucoup ce mélange de grotesque et de sublime. On retrouve un peu Shakespeare. Enfin, voilà, il y a ce
frottement. C'est gentil. Je trouve que c'est un peu comme dans une ville. Il y a les villas luxueuses, et puis il y a les maisons très modestes pour les petites gens. C'est pareil pour les mots. Il y a des mots un peu Rolls Royce, et puis il y a des mots sortis d'usine en série, bien sûr. Et ces deux-là se côtoient et se doublent sur la route. Ouais.
Vous êtes très connu en tant que poète publiant pour la jeunesse.
Ouais.
Vous avez beaucoup publié chez Chêne.
Ouais.
Quel est votre rapport à l'écriture pour la jeunesse ?
Je trouve que c'est quand même un immense honneur que d'écrire pour le jeune public, parce que c'est quand même l'avenir du monde. Parfois, j'entends comme ça des écrivains qui disent « Oh, lui, il écrit pour la jeunesse », avec un certain mépris. Mais ils ont bien tort. Les jeunes, non seulement c'est l'avenir du monde, c'est eux qui bientôt vont nous relayer, mais en plus, ce sont nos futurs lecteurs. On a bien tort de toujours négliger son futur client.
Oui, c'est Anne Sylvestre qui disait ça. Elle préparait ses futurs.
Ben oui, elle avait bien raison. Voilà. Et donc, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'à travers un livre, on donne des mots aux enfants. Et je crois que la plus grande des injustices, c'est de ne pas avoir de mots, c'est de ne pas avoir ce capital. Et les êtres humains, peut-être qu'ils ne se définissent pas entre noir et blanc, mais entre ceux qui ont les mots et ceux qui ne les ont pas. Voilà. Et ça, c'est pour moi une grande injustice. Peut-être que j'essaie de réparer à ma modeste mesure, en faisant des livres, en donnant des livres aux enfants, comme ça, à lire. Voilà. Je pense au père Joseph, le fondateur d'Athée des Carmandes. Il disait cela, il faut donner des livres aux enfants. C'est comme ça qu'on les sortira des bidonvilles. Mais il avait raison, il avait raison, bien sûr.
Et du coup, il me semble que vous êtes vraiment le poète engagé, parce que vous accompagnez ce travail d'écriture d'un travail de passeur dans les écoles.
Oui.
Est-ce que l'engagement, il ne serait pas justement là ?
Ah, c'est parce que je me suis dégagé de beaucoup de choses, plutôt.
Ouais.
Je me suis dégagé de beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait un peu le nettoyage. C'est pour cela que j'ai cette disponibilité pour répondre aux invitations, pour prendre le temps d'aller dans les classes, pour mener des ateliers d'écriture. Voilà. J'ai toujours voulu me dégager beaucoup de choses, moi, et de tout, des prisons, de l'enfermement, de la place que l'on vous donne. C'est plutôt cela. Je suis plutôt un poète du désengagement.
Et on a essayé de vous enfermer l'an dernier, il y a eu toute une polémique au moment de Parkiwitas, c'est ça ?
Vous parlez de Mehdi Rouge à Lèvres, mon livre Mehdi Rouge à Lèvres, qui est paru aux éditions Chêne en 2006 et qui visiblement a trouvé un nouveau souffle par la voix de gens qui ne l'ont certainement pas lu. Voyez-vous, c'est toujours très curieux d'ailleurs, des gens qui attaquent un livre ou qui attaquent une pièce de théâtre, puis quand on leur dit mais vous avez lu le livre ? Ah ben non. C'est très curieux, un peu comme si je n'aimais pas un gâteau et je me mettrais comme ça à critiquer son goût alors que je n'en aurais même pas pris une bouchée. C'est assez curieux.
Alors ce livre, je recommande vraiment aux auditeurs de le lire. C'est un livre qui est très beau et pour les enfants et pour les adultes.
Oui.
Je pense que ça fait beaucoup de bien aux adultes aussi.
Mais c'est un livre important.
C'est un livre important.
Il parle d'un enfant travesti. Ça existe, non? On le sait, partout. Ça existe partout. Vous allez au fin fond de la Thaïlande, ou en Birmanie, ou dans ou en France, ou au fin fond du Brésil, vous en trouverez. Ils existent, ces enfants-là. J'ai pas voulu les mettre au sommet de la montagne. J'ai simplement voulu écrire une histoire pour essayer de décrire l'intérieur psychologique de cet enfant. Mais enfin, je n'ai pas dit qu'il fallait que tous les enfants devaient se travestir. Comme je n'ai jamais dit que tous les enfants devaient jouer au football. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais le travail de l'écrivain, c'est quand même un peu de mettre en lumière des personnages. Voilà.
Et en ça aussi, je vous trouve engagé parce que vous allez mettre la lumière sur des personnages qu'on refuse de voir souvent.
Oui, oui, ça arrive qu'on refuse de les voir. Parfois, on refuse pas de les voir, mais on ne les voit plus parce qu'ils se suicident. Et c'est dramatique quand ça arrive dans une famille. Et on se dit, mince, si on s'était parlé, si on avait eu un livre à lire ensemble sur le canapé, s'il y avait eu un peu de tendresse autour, un peu de littérature, un peu de tendresse autour d'un coin du feu, au lieu de toute cette violence qui amène à des choses fatales. Enfin, je veux dire, les chiffres sont là, hein. C'est pas moi qui les invente. Hein. C'est dramatique.
Vous avez aussi parlé du travestissement dans votre dernier livre, qui s'intitule Travesti.
Oui.
Pouvez-vous nous parler de ce livre?
Là, il s'agit d'un livre adulte.
Voilà,
donc là, on est de l'autre côté de la rivière. Donc, il s'agit d'un livre que j'ai écrit, qui est un récit, hein, qui parle un peu à la fois des travestis, et puis peut-être aussi de mon enfance. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr qu'il parle de mon enfance, voyez-vous. Et que dire ? Je crois qu'à travers ce livre, j'ai voulu aussi parler finalement du faux. Et que finalement, les humains, ils sont aussi attirés non seulement par le vrai, mais par le faux. Voyez-vous, la fausse vanille dans le yaourt, le faux or, le toc, le faux marbre, la fausse dent. Ça coûte cher d'ailleurs, ça. Voyez-vous, le faux existe et il existe aussi dans la sexualité, le faux. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà.
Et quel est le lien avec l'écriture? Vous faites un moment dans ce livre le lien entre écriture et travestissement, comme les deux se nourrissant l'un de l'autre.
Oui, c'est juste. Parce que la construction du masque du travesti a quelque chose à voir avec la construction du poème. Voyez-vous, on montre des choses et on en cache. Ça, c'est important en poésie, c'est aussi important dans le travestisme. C'est aussi important, le travesti ne se travestit jamais de la même façon. Il travaille son maquillage, son vêtement, etc. Comme le poète ne travaille pas toujours de la même façon son poème. Voilà, donc il y a comme ça des parallèles, bien entendu. Voilà, peut-être aussi que le poète, c'est quelqu'un qui va essayer toujours de renverser les choses un petit peu, d'inverser les choses. Une souris verte qui courait dans l'herbe, on voit bien que c'est pas la souris qui est verte normalement, mais l'herbe, voyez-vous. Donc et c'est vrai que le travesti inverse aussi les choses, il inverse un rôle, et puis surtout le travesti exagère. S'il met des talons, il va mettre 16 cm, hein. il va pas mettre 3 cm de talons, travesti, voyez-vous. S'il met du rouge à lèvres, il en met 4 couches, quoi. Voilà. Et donc le poète exagère aussi, hein. Il exagère, c'est très important l'exagération dans la littérature. Que seraient les Thénardier dans Victor Hugo sans l'exagération? Il faut forcément qu'il soit ignoble, moche, cruel, bête, méchant. Enfin, faut voilà. C'est un peu les parallèles que je peux établir maintenant, quoi.
C'est intéressant, le masque. Est-ce que c'est pas en ajoutant un masque au masque que l'on porte toujours qu'on arrive à toucher le vrai? Est-ce que c'est une recherche du vrai ou est-ce que c'est en dehors de toute recherche d'une certaine vérité ou...
Je pense que les êtres humains, tous les êtres humains vivent avec des masques. Mmh. Sauf qu'on l'a retiré. On a retiré le masque réel pour en mettre un qui serait invisible, mais qui est là en permanence. Mmh. Ce qui est intéressant chez le travesti, c'est que lui, il le remet. Mmh. Donc, il nous replonge 10 000 ans en arrière. Voyez-vous, il nous replonge dans les sociétés chamanes. D'ailleurs, beaucoup de travestis dans certaines populations sont chamanes. C'est pas inintéressant. Notamment chez les Birmans et en Sibérie. Ils ont souvent un rôle comme ça d'intercesseur entre les humains et les esprits, voyez-vous. Alors, tout ça pour dire que, bien sûr que les humains mettent des masques. Ils ne supportent pas quand tout d'un coup on le remet.
Mais là encore, il y a un lien avec le poète. Le poète, dans plusieurs civilisation est considéré comme un intercesseur aussi.
Oui, pour, bien sûr.
Vous avez cette dimension mystique aussi, il me semble. Cette ouverture, disons.
Je n'aime
pas. Non.
Je trouve qu'il est toujours impudique de parler de son propre mysticisme ou de sa foi. Je laisse
oui, c'est
ça.
Très privé, c'est très privé.
Ah, oui. Je trouve que c'est. Puis bon, c'est à la mode, c'est bien. Hein, mais il y a des choses comme ça, indescriptibles, qui ne sont pas partageables. Vous savez, les évangiles disent très très clairement que si on accomplit son devoir religieux en public, il n'y aura pas de récompense. Donc, en fait, il faut pousser ce raisonnement jusqu'au bout. Toute exhibition de la foi est sans récompense au bout, voyez-vous. Mais là, je m'appuie sur le texte évangélique. Voilà. Donc, quand aujourd'hui, on lutte contre les signes ostentatoires religieux, en fait, on est vraiment religieux. Parce que les textes religieux le disent, en tout cas l'évangile, les évangiles, voyez-vous, il n'y a pas plus religieux que cette démarche-là, que de lutter contre l'ostentation. Et voilà, il y a tellement d'autres choses à montrer, en fait, c'est ça.
Vous voulez parler d'un autre livre que vous avez pu écrire et qui vous tienne à cœur ?
Je vais vous lire un poème.
Ah, mais voilà.
Ah.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est peut-être ça le plus important, oui. Finalement. Les mots. Mmh. Ces gens qui sont des arbres. Publié aux éditions Chêne. Saule. Le saule pleureur. C'est parce que ses branches tombent au sol et semblent se lamenter qu'on l'a nommé ainsi. Si ses branches avaient poussé sur les côtés ou en hauteur, on ne l'aurait pas pour autant appelé saule rieur. Non. On lui aurait taillé sa joie.
Merci beaucoup. C'était un plaisir.
Merci à vous, merci à vos auditeurs. Et belle vie à vous toutes et vous tous.
Merci, David Dumortier.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn anyone who reached out for me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, he must not ask for so much. And a priest drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
Voilà, vous venez d'entendre Birds on a Wire de Rosemary Stanley et Dom La Nena.
Maintenant, on a entendu parler pendant l'interview de Mehdi Mehdi Rouge à Lèvres. Est-ce que tu veux bien, Prunelle, nous en lire le début, s'il te plaît? C'est publié chez Chêne.
Alors. Un petit garçon s'habille en fille. Quand on le surprend, il rougit en attendant que l'enfance passe sur ses joues. Il s'appelle Mehdi. Mehdi va à l'école avec du rouge à lèvres. Dès qu'il arrive, il file tout azimut. On le poursuit. Il saute la barrière des maternelles. Il revient, un point d'interrogation court derrière lui. Comme ça, il est impossible de lui poser des questions compliquées. En plus, il a des manières de fille. Elles sortent toutes seules. Elles lui échappent des mains. Il est trop tard quand il essaie de les rattraper. Mehdi ne peut pas refaire une même manière à l'envers et la remettre dans sa cage. À ce moment-là, tout le monde pourrait revenir en arrière, recommencer sa vie et lâcher des paroles en l'air. Toujours au même endroit, dans la cour, il y a un tourbillon. Mehdi s'est planté au milieu. Autour de lui dansent des papiers de chewing-gum et l'automne. Mehdi s'habille des guenilles du vent.
Il a été question aussi du jeu de la bonne aventure qui est publié chez Motus. Donc le jeu de cartes poétique que David Dumortier a inventé. Tu veux tirer une carte, Prunelle ?
Avec plaisir.
J'en tirerai une aussi. Comme ça, on lira chacune notre carte.
Donc je lis ma carte.
Vas-y. Hein.
Tu jardineras des couleurs parfumées, tu laisseras les fleurs jouer où elles veulent. De toute façon, tu as toujours préféré les fleurs sauvages. Et là, je dis, j'accepte ou pas, c'est ça?
Oui, parce que c'est écrit sur le jeu de cartes qu'on a le droit de changer d'avenir, il suffit juste de tirer une autre carte. Je lis la mienne?
Oui.
Tu as souvent rêvé de voler dans le ciel. Tu seras un oiseau, une libellule, un cerf-volant. Mais ne sois jamais un perroquet qui répète la même chose. Je vais essayer de suivre ce conseil. On va lancer la deuxième pause musicale. C'est une chanson d'Alexis HK.
J'aurais dû prévoir qu'il ferait un peu chaud pour mettre des bas noirs et mon long manteau de biche. Ma jupette étroite, ma démarche est bizarre. On dirait que je suis nominé pour les Césars. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Gentil machiniste aux 12 accents du Gard qui m'ont permis de prendre le train du mois d'août. Je m'en vais déverser les flots de mon coming out. Je suis un garçon sensible et réfléchi. En grandissant, je ne me suis jamais affranchi de ces nuits de veille aux douloureux vagues à l'âme. J'ai compris bien trop tard que j'étais une femme. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Gentil buraliste aux beaux romans de gare qui m'ont permis de prendre le train du mois d'août. Je m'en vais déverser les flots de mon coming out. Un clochard avachi prend un bain de pisse et mange en ronchonnant un vieux bout de pain d'épices. J'ignore en passant ses insultes et ses cris. L'odeur est affligeante et la nausée m'envahit. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Vont-ils être tristes? Il faut que je leur parle. Des mutations se sont produites sur ma route. Je m'en vais déverser les flots de mon coming out. Thank you.
Je me suis assis sage sur la banquette. L'arlequin que je lis m'a fait oublier ma quête. Je n'avais pas vu les gros bras qui me guettent et font à mon propos des boutades de braguettes. Je m'étais fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Trois hommes impulsifs aux manières de barbares se sont saisis de ma personne et de mes doutes et m'ont épargné le chaos de mon coming out. Je m'étais fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Trois hommes impulsifs aux manières de barbares se sont saisis de ma personne et de mes doutes et m'ont épargné le chaos de mon coming out. J'aurais dû prévoir qu'il ferait un peu chaud pour mettre des bas noirs et mon long manteau de biche. Ma jupette étroite et je marche en canard. Je leur dirai plus tard que je suis de droite. Je m'étais fait belle, belle, belle pour aller les voir. Belle, belle, belle pour aller les voir. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Belle, belle, bonne pour aller les voir. Je me suis fait. Je me suis fait. Je me suis fait.
Alors, en début d'émission, j'ai dit que David Dumerty allait venir dans le cadre de Place à la Poésie. C'est une manifestation qui est en partenariat avec le Printemps des Poètes, qui a lieu du 14 au 21 mars dans toute l'heure, dans plein de petits villages. Et il y aura notamment Rémi Checchetto, qui a fait l'objet d'une précédente émission. Je l'avais interviewé aussi. Il sera donc à la médiathèque d'Évreux le dimanche 15 mars à 15h30. Il y a plein d'autres poètes à retrouver sur la page Facebook du COPO, C-O-P-O, ou sur le site heureenligne.fr, heure-en-ligne.fr. Et avant cette période du 14 au 21 mars dans l'heure, il y a aussi un week-end, le 7 et le 8 mars à Rouen, un week-end insurrection poétique à Lettres Saint-Maclou, avec notamment Sophie Gélucas, Marc Delouze, Marlène Tissot, Alexis Belletier, enfin voilà, plein de poètes et d'interventions et de spectacles à retrouver dans la région.
Merci Mélanie. Donc on va enchaîner avec le texte de Mélanie qui s'appelle Février. Donc depuis le mois de septembre, il y a un mois pour un texte. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc là, je vous laisse écouter Février.
Février. Il y a du froid qui fait le ciel plus pur, du froid qui nettoie, qui embellit parfois. Mais les corps crient sous les morsures. On peut se terrer, hiberner, rentrer le bec, courber les chines. On peut aussi prendre des risques, partir à la recherche, bouger, créer son show, briser les masques, les statues de glace, donner la main aux oubliés, aux invisibles. On fait comme on peut pour allumer des feux avec sourire et accolade. Ensemble, on se réchauffe. C'est le partage du froid. Arrive un moment où on se demande, tout ce froid, ces arbres nus, ces fleurs mortes, jusqu'à quand ?
on s'attache à des riens pour patienter demain. Le zinzibule d'une mésange, de la lumière, un peu plus tard, une nouvelle portée. Pour le moment, bois mort nous tient en vie. Nous sommes debout, en mouvement. Plus vivant d'être en lutte.
Voilà, c'était Février, un texte de Mélanie Leblanc sur une musique de Thomas de Aumont. Vous étiez dans l'émission de La Langue Brune, autour de la poésie, avec Mélanie Leblanc. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour mon émission toute seule. À bientôt, Mélanie.
À bientôt, Prunelle.
Au revoir.